Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances de printemps ont commencé samedi, parenthèse scolaire qui correspond comme souvent à une accalmie sur le front des événements musicaux. Il est vrai que le mois de mars et le début du mois d'avril ont été très intenses et que nos amis musiciens ont bien mérité de souffler un peu. Les représentations de Cenerentola se sont achevées dimanche à l'Opéra National du Capitole. Vendredi, nous avons assisté à la Halle au Grain à un très beau concert de l'Orchestre National du Capitole et notamment à un superbe deuxième concerto de Franz Liszt dans lequel s'est illustré l'excellent jeune pianiste britannique Benjamin Grosvenor. Nous allons revenir sur ces deux moments privilégiés avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis nous avons un invité d'honneur aujourd'hui, le pianiste David Frey, qui va nous présenter en seconde partie de numéro la programmation 2024 de l'Offrande musicale, le beau festival qu'il dirige et qu'il a créé chez lui à Tarbes. La quatrième édition a lieu du 29 juin au 13 juillet. On l'évoquera en détail tout à l'heure avec David Frey. Dans l'immédiat, c'est l'actualité musicale récente qui va nous intéresser. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge, merci d'être encore fidèle au
merci
rendez-vous.
À vous.
Je le disais il y a quelques instants, les dernières représentations de Cenerentola ont été données il y a quelques jours. La dernière, c'était dimanche à l'Opéra National du Capitole. Il y en a 8 au total pour cette nouvelle production de l'opéra de Gioachino Rossini, mise en scène par le duo Barbe et Doucet, avec une double distribution pour les rôles principaux. L'orchestre du Capitole était dans la fosse, dirigé par l'excellent Michele Spotti. Une chose est certaine, Serge, c'est que sur le plan musical et vocal, c'était vraiment du très très haut niveau.
Absolument, et tout d'abord, et surtout, grâce à Michele Spotti, qui est un chef extraordinaire, vraiment une direction animée, une direction précise, équilibrée entre le plateau et la fosse, pleine de couleurs. Le test, très net, c'est la perfection des nombreux ensembles. Voici un opéra, c'est souvent le cas chez Rossini, mais en particulier dans Cenerentola, c'est la multiplication des ensembles. Alors avec cette mécanique rossinienne, c'est crescendo irrésistible, et ça, il a fait ça de manière formidable. Alors ensuite, il faut rappeler que c'était une nouvelle production qui a été créée à Riga en 2021, coproduction donc de Barbe et Doucet, les deux complices qui multiplient leur collaboration. Alors, je voudrais d'abord dire quelques mots sur cette production qu'on pourrait qualifier de virtuose. Elle est très précise, animée, pleine de vitalité, mais avec ce que l'on perçoit de plus en plus dans les nouvelles mises en scène, ce parti pris de transposition. Et là, ils ont décidé de transposer l'intrigue, c'est le conte de Perrault évidemment, transposé, et là, eux, ils l'ont doublement transposé dans le monde du cabaret de New York. Tout se passe à Broadway, en quelque sorte, dans le monde de la Prohibition. Alors, c'est un peu bizarre, parce que vraiment, on ne voit pas très bien le rapport avec l'intrigue. Alors, il n'y a plus de féerie, mais déjà, le livret de Rossini, il n'y avait plus les fées, etc. La citrouille, tout ça, c'est terminé. Et là, ce qui est incroyable, c'est que la maison de Don Magnifico, donc le père des trois filles en question, là, c'est le Bottom Club. Alors, c'est une allusion au fameux Cotton Club
oui.
De l'époque. Alors que le Palais du Prince, ben là, il est devenu le King's Folly, référence au Ziegfeld Folly. Alors, ce qu'on gagne en vitalité, en animation, vraiment en précision, eh bien, on le perd en émotion, je dois dire. Parce que le caractère, et oui, émouvant, vraiment, du personnage principal, eh bien, il se perd là un peu. Cenerentola, donc Angelina, elle fait des croquis de costumes. Pour les Ziegfeld Folies, vous voyez. Alors, c'est un peu bizarre, bon. Et puis, il se passe tellement de choses scéniquement, ça, on peut dire que
c'est chargé,
c'est vraiment...
Il y a la densité de ce point de vue.
Peut-être un peu surchargé, puisque ça distrait presque de la trajectoire, en fait, de l'intrigue. Mais bon, en tout cas, on ne s'ennuie pas. Et la distribution, moi, j'ai assisté à la première distribution, vraiment excellente, hein, avec dans le rôle d'Angelina, donc Cenerentola, Adèle Charvet, avec un beau timbre qui s'épanouit dans un aigu claironnant, disons, une vocalisation très précise. Elle incarne le personnage, c'était vraiment très bien. Le prince Don Ramiro, alors là, c'est la voix relativement légère du ténor que l'on a déjà vu ici à Toulouse, qui s'appelle Levi Zekgapalme, et donc...
Ténor sud-africain.
Ténor sud-africain, vraiment avec une voix très raffinée, une quinte aiguë impressionnante, bien accrochée, éclatante, et alors il donne du rôle vraiment un portrait attachant. Ensuite, Dandini, donc son âme damnée en quelque sorte, son serviteur, c'était Florian Saint-Pé avec un très beau timbre de baryton, nuancé, bien conduit. Et alors, l'un des vainqueurs quand même de tout cela, c'était Vincenzo Taormina qui fait un Don Magnifico. Et alors, en plus, il chantait toutes les représentations,
oui,
il faisait les premières et les deuxièmes.
Initialement, il était en doublant avec Nicolas Elaimo qui a dû déclarer forfait.
Et
donc, il a fait toutes les représentations.
Oui, oui. Mais alors, lui, il ne fait qu'une bouchée du rôle du père. Hein. Ah, il impose un timbre, une voix de baryton basse dans les ensembles. Le chant syllabique, c'est très important chez Rossini, est vraiment magnifique et il est scéniquement désopilant. Vraiment excellent. Alex Rosen qui fait Alidoro, donc, qui se manifeste là par une belle ligne de chant. Alors que les deux sœurs, les deux chippies en question, Céline Laborie qui fait Clorinda et Julie Pastureau qui fait Tisbé, sont parfaites dans ces rôles. Hein. Et le chœur est excellent, comme d'habitude, et il faut souligner la contribution de Robert Gonella au pianoforte et pour les récitatifs, et il fait ça toujours avec son art incroyable.
Et il faut en profiter parce que Robert Gonella ne va pas tarder à prendre sa retraite.
Ah, ça sera bien triste, parce qu'enfin, peut-être on trouvera aussi...
Certainement, comme on dit, un pianiste irremplaçable, mais quand même, lui, il ne va pas être facile à remplacer, puis c'est un pilier de la maison.
Ah, mais exactement, on se rappelle quand même qu'il avait remplacé l'orchestre dans une représentation de Così fan tutte.
Et oui.
Carrément tout l'orchestre.
Ça en dit long quand même.
C'est formidable. C'est formidable.
Les capacités de ce pianiste, de ce musicien formidable.
Ah oui, 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 ça, il faut vraiment le souligner. Donc, un beau spectacle qui a un grand succès, vraiment un grand,
oui,
grand,
oui,
succès.
Toutes les représentations étaient très bien remplies. Oui. Alors, il y avait une deuxième distribution, ni l'un ni l'autre ne l'avons vu.
Non.
Mais apparemment, il y a eu de très, très, très belles découvertes, notamment dans la seconde distribution.
Oui, oui, absolument. Tous les échos sont très favorables. Donc,
il y aura sans doute parmi les chanteurs de cette deuxième distribution certains qu'on reverra au Capitole dans les années à venir.
C'est à peu près sûr.
Nous allons pouvoir écouter une dernière fois un extrait de Cenerentola. Celui-ci est chanté par le ténor sud-africain Levi Zekgapalme, justement, qui était un des deux Don Ramiro dans la production à laquelle nous avons assisté au Capitole. Levi Zekgapalme dans cet extrait de la Cenerentola, l'opéra de Rossini, pour lequel il était Don Ramiro dans la belle production présentée au Capitole du 29 mars au 7 avril, mise en scène par Barbé Doucet. Le prochain opéra à l'affiche de la Scénérique toulousaine, c'est Péléas et Mélisande de Claude Debussy, avec 5 représentations du 17 au 26 mai. Et puis donc vendredi, les musiciens de l'Orchestre National du Capitole étaient en concert à la Halle au Grain, sous la direction du chef américain Robert Trevino, pour accompagner, entre autres, le jeune pianiste britannique Benjamin Grosvenor dans l'exécution du concerto pour piano numéro 2 de Franz Liszt. Il y avait 2 autres œuvres au programme de cette belle soirée qui a ravi un public toujours aussi nombreux et enthousiaste, Serge. La halle était encore une fois presque pleine à quelques travées près.
Absolument. Et puis j'ai remarqué que dans le public, il y avait une proportion très importante de jeunes, d'adolescents, probablement attiré par Pom-Pom-Pom-Pom.
Hein. Oui, c'est vrai la que cinquième symphonie de dans les 2 autres œuvres au programme, il y avait la 5e de Beethoven.
Voilà, qui occupait toute la seconde partie. Mais le concert commençait par une œuvre beaucoup moins courante, beaucoup moins connue, beaucoup moins jouée que la 5e de Beethoven. C'était cette musique pour cordes, percussions et célesta de Béla Bartok, qui a été créée en 1937 en Suisse. Et donc, à l'écoute, semble annoncer un peu les bouleversements du monde à venir. Hein. Ça date de 37, donc. Alors, c'est avec un orchestre très particulier, un double orchestre à cordes, qui se fait face, en quelque sorte, en miroir, et avec pas mal de percussions, donc, et d'instruments à clavier, comme le piano ou le célesta. Alors, c'est une œuvre très douloureuse, en quelque sorte, puisqu'elle débute par un andante qui émerge peu à peu du silence, puis qui revient avec une fugue, mais une fugue d'une tristesse incroyable. Un mouvement lent qui évoque un peu l'opposition entre détente et souffrance. Alors là, on a pu admirer la direction précise et très analytique de Robert Trevino, qui est un très bon musicien, qu'on avait déjà vu à Toulouse plusieurs fois, et donc qui est un très bon chef. Et là, vraiment, alors ça a été quand même un moment plein de contrastes et un moment un peu hors du temps, en quelque sorte.
Là, c'est une œuvre un peu déroutante, hein, déjà même visuellement, ne serait-ce que visuellement, par la disposition de l'orchestre.
Oui, oui, très particulière. Mais c'est une œuvre magnifique, avec une richesse rythmique impressionnante.
C'est du Bartok.
C'est vrai, du Bartok.
C'est vraiment du Bartok.
Avec quelques inspirations, évidemment, des musiques populaires.
Folkloriques
de l'Europe de l'Est. Donc,
Europe centrale natale.
Exactement. Et puis ensuite, donc, en deuxième œuvre, nous avons pu admirer effectivement le Britannique Benjamin Grosvenor, qui est déjà venu à Toulouse, hein, qui a déjà été à plusieurs reprises acclamé, d'ailleurs chaque fois, et qui est vraiment un très, très grand pianiste. Vraiment.
Exceptionnel.
Moi, j'ai été ahuri par son interprétation du concerto pour piano, donc numéro 2, composé en 1861 par Franz Liszt. Un autre hongrois, après Bartok. Hein.
Oui.
Alors, il faut rappeler que l'œuvre est constituée d'un seul mouvement, mais divisée en 6 parties qui s'opposent. Et donc, ça exige vraiment une maîtrise absolue de l'interprète soliste. Et là, on ne peut que s'incliner devant la maîtrise du jeune pianiste. D'abord, la remarquable perfection technique du toucher, la précision, la puissance diabolique, vraiment, à certains moments, de sa sonorité très généreuse et qui n'a d'égal que son implacable maîtrise, son contrôle de la ligne musicale et du déroulement musical. Donc, il fait de la musique avec son piano. Hein. C'est ça qui est extraordinaire.
La musicalité y est, il n'y a aucun doute. Effectivement, la maîtrise, la précision. Enfin, on sent que rien n'est laissé au hasard.
Non. Tout est réfléchi, adapté à la progression. Et alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'extrême énergie de ces interventions qui ne masquent jamais la poésie. La finesse, les nuances qu'il intègre à la ligne de son jeu et de la partition. Donc vraiment un grand moment avec ce dialogue avec l'orchestre qui était excellent. Et d'égal à égal.
Était formidable.
Parfait, parfait. Ouais. Jamais l'orchestre ne couvre le piano ou le piano ne se met en avant de manière hyper virtuose. Non, c'est vraiment magnifique. Avec, je voudrais le souligner aussi, les interventions des instruments solistes de l'orchestre, comme il y a un très beau solo de cors au début, la flûte évidemment, le hautbois, la clarinette et puis surtout le violoncelle.
Et le violoncelle.
Qui a tout de même 2 solistes.
Il y a un duo à un moment donné
avec le piano, magnifique.
Qui a été extrêmement réussi. Hein.
Ah oui, oui, oui.
On peut dire qui était le violoncelliste qui a fait ce dialogue avec
Pierre Gilles. Hein,
Pierre Gilles.
L'un des grands solistes de l'orchestre, donc vraiment un grand musicien lui aussi. Donc cette exécution a eu un impact incroyable qui a déclenché une ovation tout à fait mérité du public. Et évidemment, il est revenu pour jouer un bis.
On était tous impatients de voir quel bis il allait
quel
jouer.
Quel bis hein. il allait choisir.
Est-ce qu'il allait nous remettre du liste ? Il aurait pu. Hein.
Il aurait pu. Mais là, il a choisi un bis pour calmer le jeu, en quelque sorte, dans le fameux nocturne numéro 20, en do dièse mineur, opus posthume de Frédéric Chopin. Et là encore, une interprétation extraordinaire de ce nocturne qu'on entend très souvent, mais rarement à ce niveau.
Ah oui, non, il l'avait enregistré il y a longtemps déjà, il y a plus de 12 ans, parce que c'est en 2011, alors qu'il était un tout jeune pianiste.
Tout jeune.
Hein. Il avait 18 ans, je crois qu'il est né en 1993, et c'était déjà exceptionnel, mais évidemment, il y a un peu plus de maturité encore. Mais ce qui me frappe, ça c'est la marque des grands, c'est qu'il sait donner à chaque note leur juste poids.
Oui, exactement.
Et ça, c'est vraiment très significatif.
Non, ça a été vraiment un grand moment. Avec dans la deuxième partie, évidemment, bon, là, on n'est pas...
C'était le morceau de bravoure.
Le morceau de bravoure, la cinquième symphonie en ut mineur de Beethoven, avec une direction très animée du chef, qui en offre une vision que je qualifierais de cuivrée. Il a donné vraiment...
La part belle au cuivre.
Les cuivres avaient le premier rôle. Bon, sans pour autant sacrifier les cordes, évidemment, mais tout de même avec une impulsion particulière.
On sentait que c'était un parti pris, quand même.
Exactement.
Dans sa vision de l'œuvre.
Alors, la vigueur de l'Allegro con brio initial, elle s'est développée sur un tempo dynamique, un tempo très vif, animé. Hein. C'était un peu dans ce mouvement, j'ai eu l'impression d'une tempête par moment. Et l'andante con moto, alors là, avec des nuances particulières, et puis ses ponctuations par des silences inquiétants sur lesquels il a insisté. Donc, c'était aussi bien vu. Et puis, le scherzo allegro, comme d'habitude, très, très élaboré dans sa construction. Et le final allegro, donc, c'était en quelque sorte un triomphe qui concluait cette exécution passionnée par ce chef invité que l'on reverra probablement. Et ça a été acclamé, salué bruyamment par ce public enthousiaste, où encore une fois, je soupçonne que les jeunes étaient en nombre important pour cette fameuse symphonie que tout le monde connaît ou évoque.
Alors, il y a une chose aussi, Robert Trevino, qui est un chef relativement jeune, il a 40 ans, hein, c'est qu'il est extrêmement agréable à regarder diriger, je
trouve.
Il a une gestique très élégante, à la fois dépouillée, mais en donnant toutes les indications qu'il faut, très agréable à regarder.
Mais un peu chorégraphique aussi. Hein,
Je pense qu'il doit passer du temps devant la glace.
C'était vraiment volontaire et pour obtenir les nuances qu'il souhaite.
C'est pas gratuit du
tout. Et qu'il réussit à obtenir. Très beau moment.
Alors, Benjamin Grosvenor a donné en bis le nocturne numéro 20 en do dièse mineur, opus posthume de Frédéric Chopin. Une pièce et une musique qui vont parfaitement à son jeu. Nous écoutons maintenant la version qu'il en avait enregistrée en 2011. Thank you. Benjamin Grosvenor interprétait ici le Nocturne numéro 20 en Do dièse mineur, opus posthume de Chopin, une version qu'il avait enregistrée en 2011, avec laquelle nous terminons cette première partie d'émission. Une courte pause en musique et nous revenons pour la rubrique agenda de cette émission avec Serge Ozy et donc avec David Frey. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie de Mélomanie est notre rubrique agenda avec Serge Ozy et avec David Frey, directeur artistique de l'Offrande Musicale, un festival que vous avez fondé il y a 4 ans à Tarbes et dans la région tarbaise, David. La quatrième édition se tient du 29 juin au 13 juillet avec une programmation une nouvelle fois très prestigieuse cette année. Bonjour et merci d'avoir trouvé du temps pour cette interview parce que je sais que vous êtes fort occupé ces temps-ci, mais je crois qu'il est rare que vous ne le soyez pas.
Bonjour et merci pour votre invitation. Oui, effectivement, j'étais un peu plus au calme, donc je peux faire cette interview avec plaisir.
Eh bien, merci en tout cas de nous avoir consacré un peu de votre temps. Alors, une chose très importante avant que l'on se plonge dans la programmation 2024 avec vous, c'est que ce festival ne s'appelle pas l'Offrande musicale par hasard, bien sûr. D'une part, c'est un clin d'œil, un hommage à Jean-Sébastien Bach, sans doute votre compositeur de prédilection. Mais plus encore, le terme « offrande » prend tout son sens dans la mesure où cet événement culturel est aussi un projet humaniste et solidaire, et ça s'est inscrit dans le marbre dès la création du festival. En quoi l'Offrande musicale est un projet humaniste et solidaire, David ?
Alors effectivement, ce festival, je l'ai voulu un peu différent, et pour les personnes justement elles-mêmes aussi différentes en un sens, puisque dès sa création, et une de ses raisons d'être, et peut-être même sa raison d'être principale, c'est effectivement la préoccupation envers les personnes atteintes de handicap. Donc cela se traduit notamment par la mise à disposition de 20% des billets gracieusement à destination de ces personnes et d'un accompagnant, des auditions générales ouvertes pour les personnes qui ne peuvent pas venir à un concert pendant 2 heures et sont hélas assez nombreuses également. Et puis des captations qui sont retransmises dans les établissements de santé, des ateliers de musicothérapie toute l'année. Enfin, on fait beaucoup de choses là-dessus et on a également des invités à chaque fois qui sont en lien avec ce sujet.
Oui, bien sûr, on y reviendra notamment lorsque nous allons parler de l'artiste en résidence à l'Offrande musicale de 2024 à 2026. Je donne son nom tout de suite, c'est le corniste allemand Felix Kieser. On vous expliquera pourquoi c'est lui que vous avez choisi. On en vient tout de suite à la programmation de ce festival 2024 que vous ouvrez le 29 juin par un concert à Lourdes, parce que bon, ce festival, le centre nerveux, on peut dire que c'est Tarbes, mais ça se déploie vraiment dans la région tarbaise et lourdaise. Et donc, le 29 juin, ouverture à la salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre à Lourdes, concert donné à 20h par le violoniste Maxime Wengerhoff, immense musicien qui sera accompagné par le pianiste Vag Papian. Quand je parlais d'artistes prestigieux, ben là, d'emblée, on en tient un très grand.
Oui, effectivement, ça a été une grande chance qu'il puisse non seulement être libre, qu'on puisse l'inviter et qu'il soit disponible pour ce concert-là, le concert d'ouverture. Wengerhoff, c'est un musicien que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, même si on n'a pas une différence d'âge si énorme que cela, mais il a commencé très jeune sa carrière. C'est vraiment un des représentants majeurs aujourd'hui de l'école de violon russe. Et voilà, je pense que c'est effectivement exceptionnel qu'il puisse venir vers les Hautes-Pyrénées pour la première fois.
Et il va donner un programme où on trouve des pièces de Johannes Brahms, deux de Serge Prokofiev et une de César Franck.
Oui, c'est ça. C'est vraiment du grand répertoire de violon avec une sonate de Prokofiev et la célébrissime sonate de Franck qui peut-être inspiré la sonate de Vinteuil de la recherche du temps perdu de Proust.
Ouais, c'est en tout cas ainsi que les choses sont présentées. Alors, le lendemain, le 30 juin, à la même heure, concert au château Montus, c'est à Castelnau-Rivière-Basse, donné par les chanteuses Nathalie Dessay et Naïma Naouri, la mère et la fille pour ceux qui ne le sauraient pas, qui vont être accompagnées au piano par Yvan Cassard et le programme est intitulé « Nathalie Dessay chante Broadway ». Qu'est-ce qu'on va y entendre ?
Alors, pas seulement de la musique italienne d'ailleurs, hein. Il y aura également du Michel Legrand, du Claude Nougaro, il y aura aussi effectivement de la musique de musical et de Broadway, comme son nom l'indique, pour Nathalie Dessay, et elle a une collaboration en particulier assez riche et très étroite avec Michel Legrand. Je crois qu'elle a au moins un ou deux disques avec lui, en plus du temps où Michel Legrand était encore
en vie. Bon, juste préciser, donc les œuvres, bon, pour ceux qui connaissent évidemment, il y a du Leonard Bernstein, ça on connaît, mais il y a du Jerry Herman, il y a du Harold Arlen, il y a du Frank Loesser, Stephen Sondheim aussi, Gershwin bien sûr, et puis donc Michel Legrand et les musiques qu'a composé Michel Legrand pour Claude Nougaro, parce que cette année on commémore les 20 ans de la mort de Claude Nougaro, donc on continue dans le très prestigieux le 1er juillet, c'est toujours à 20h, les concerts sont à 20h, vous avez programmé de nouveau à la salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre de Lourdes, une autre immense vedette internationale du chant, le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, accompagné par son pianiste attitré, son compatriote Michal Biel. Le programme est entièrement baroque comme on pouvait s'y attendre.
Pas tellement si vous regardez bien, parce qu'il y a des compositeurs polonais dont certains sont plutôt des compositeurs du 19e siècle.
Effectivement, je ne connais pas. Oui, effectivement.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais il y a effectivement aussi du Handel.
Du Purcell.
Du Purcell. Et il va nous faire découvrir également des compositeurs de son pays. Après, c'est vrai qu'Orliński, c'est vraiment le contre-ténor aujourd'hui le plus renommé, je pense. En plus, il a une personnalité assez atypique, qui fait du breakdance également. C'est un jeune homme bien ancré dans son époque. Mais il a eu une histoire aussi un peu particulière, parce qu'il a connu la célébrité pratiquement 5 minutes, lorsqu'il a remplacé un musicien lors d'une émission de France Musique. Et il a chanté un air de Vivaldi qui durait 5 minutes dans une émission de Frédéric Lodéon. Et de ce moment-là, en fait, sa carrière a explosé en réalité, puisque avec les réseaux sociaux, l'internet, etc., cette vidéo a été partagée des millions de fois. Et il se trouve qu'il avait le talent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais le talent pour survivre à une telle exposition presque violente, j'allais dire.
Oui, il aurait pu se brûler les ailes, effectivement,
oui,
rapidement à se retrouver comme ça.
C'est dangereux, ce genre de...
Je comprends ce que vous voulez dire.
Ce genre d'histoire, c'est ça. Et lui, en fait, bon, voilà, maintenant, il fait une carrière sur les plus grandes îles d'opéra, également du monde. Il a fait encore au Théâtre des Champs-Élysées, Orphée Eurydice de Gluck récemment. Ouais, il était à l'opéra de Munich aussi. Il est très, très apprécié. Et c'est vrai que c'est une voix très belle, très particulière aussi. Tous les contre-ténors n'ont pas
ce timbre, oui, c'est vrai.
Il a la même typologie de voix. Et lui, il a vraiment un timbre très reconnaissable. Et je pense qu'en matière de chant, c'est quand même une des qualités, évidemment, principales aussi d'un chanteur, c'est d'avoir un timbre qui ne ressemble à aucun autre. Et c'est absolument son cas.
Et c'est une personnalité très très attachante qui s'est créée un lien fort avec le public. Ça, Serge Chosy, qui est avec moi, peut en témoigner. On l'a vu il n'y a pas si longtemps.
Absolument. À Toulouse, oui, sur la scène de la Halle au Hérin.
Pour les grands interprètes.
Et les grands interprètes. Et il a fait un triomphe, évidemment.
Et on avait eu droit à quelques figures de breakdance.
Exactement. Il a terminé sur une figure sur sa tête. tout à fait impressionnant.
Presque une cascade. Hein.
Oui. Non, mais il est impressionnant.
Je ne doute pas qu'il nous fera aussi quelque chose là pour l'offrande musicale. On va écouter. Il fera quelque chose parce que de toute façon le public va le réclamer, donc il pourra pas y couper. On va l'écouter, Jakub Józef Orliński. Alors bon, le 1er juillet à Lourdes, il y a du Purcell et je tiens le pari qu'on devrait y entendre la fameuse Cold Song, le célèbre air du froid tiré de l'opéra King Arthur.
Oh.
Cold Song, l'air du froid, extrait de l'opéra King Arthur, composé par Henry Purcell, chanté par Jakub Józef Orliński, accompagné au piano par Michal Biel. Très certainement une des œuvres au programme du concert du contre-ténor polonais et de ce même pianiste le 1er juillet à Lourdes. Et le 2 juillet, c'est encore le chant lyrique qui est à l'honneur avec une autre grande vedette internationale, une de plus, la soprano bulgare Sonia Yoncheva. Elle se produit à 20h au Hara National de Tarbes avec le pianiste Ruben Fernandez Aguirre. Et là, c'est un programme d'air d'opéra italien, mais pas seulement, David, je crois.
Alors, je pense que c'est quand même essentiellement des compositeurs du 19e italien.
Ah, il y a Albéniz. J'ai vu qu'il y avait Albéniz au programme.
Ah, il y a peut-être du Albéniz qui s'est glissé, effectivement. Moi, je me souviens surtout de Martucci, Verdi, Puccini.
Et oui, absolument.
Voilà, donc oui, il y aura peut-être quelque chose d'un peu singulier, mais enfin, c'est essentiellement des héroïnes véristes italiennes ou verdiennes, etc.
Bah, le grand registre de l'opéra du Bel Canto, dans lequel oui, Sonia Yoncheva peut donner toute sa mesure.
Excel. Oui, exactement. C'est vraiment un des timbres, là aussi, mais une des musiciennes vraiment importantes aujourd'hui dans le monde de l'art lyrique. Et elle aussi, elle est rare en France, donc de pouvoir la voir dans les Pyrénées, c'est aussi également un événement, après tous les noms déjà que vous avez cités, ça c'est sûr.
C'est ce que j'allais dire à Serge, vous vous rendez compte, on enchaîne quand même en suivant Nathalie Dessay, Jakub Józef Orliński et Sonia Yoncheva.
oui, vraiment.
Et Vengerhoff aussi. Ouais,
non, et Vengerhoff au départ, alors je parlais des voix, mais alors les voix, là, vous nous avez vraiment servi le menu de gala. Hein.
Ah non, c'est un 5 étoiles là, ce festival, hein, c'est formidable.
Alors il y a Relâche le 3 juillet et le 4, toujours à 20h, oui. Récital de lutte à la chapelle Notre-Dame de Piéta à Barbazan-de-Batte. On dit Barbazan-de-Batte.
Alors, ouais, Barbazan-de-Batte.
Je fais très attention à ce que je dis parce que c'est votre village.
Oui, ça c'est important, il ne faut pas corcher le nom. Et cette chapelle, elle est très importante pour moi également parce que c'est la chapelle de mon enfance, dans laquelle j'allais parfois me recueillir d'ailleurs et où j'ai souhaité enregistrer les variations Goldberg il y a 2-3 ans.
Voilà. Oui, on trouve sur YouTube d'ailleurs cette vidéo.
Voilà, et c'est une très très jolie chapelle. Et c'est vrai que ce récital de luth, j'y tenais beaucoup parce que c'est un des instruments que je préfère. Le luth, c'est un instrument à la fois intimiste, mais coloré. Et quand il est joué comme par son représentant, peut-être le plus éminent, à savoir Thomas Dunford, je pense que c'est encore plus émouvant et prenant. Donc ça, c'était, après les voix dont on a parlé, c'est vraiment un récital de ce type-là, de luth. Je trouve que c'est une sorte de retour aux sources, même en termes de répertoire, qui fait du bien. Et dans ce cadre-là aussi, je pense que c'est tout à fait adapté. Et voilà, j'étais heureux que Thomas puisse venir également.
Thomas Dunford, on le connaît à Toulouse, parce qu'on a eu l'occasion de le voir quelques fois. Serge, c'est un musicien fabuleux. Enfin, c'est vraiment un des grands, grands talents de la jeune scène baroque française, qui joue du luth et du théorbe.
Exactement. Donc c'est vraiment un grand musicien.
Et c'est le luthiste et théorbiste attitré de William Christie avec les arônes florissants. Et je pense que dans ce lieu, ça va aussi prendre une très très belle dimension. Alors le programme, effectivement, là on va trouver évidemment beaucoup de pièces baroques aussi. Pour le luth, c'est pas étonnant. Mais alors il y a un intrus, il y a du Eric Satie.
Oui, c'est ça. Oui, alors je crois que c'est sur son dernier disque avec
Absolument. Léa Descendre. Absolument, avec sa compagnie Léa Descendre, Idylle, le CD Idylle.
C'est ça. Donc il y a une gnossienne, une gymnopédie, si je me souviens bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où je disais que Thomas est quelqu'un d'aventurier, d'innovant et de curieux. C'est qu'il a également un peu élargi le cercle habituel du répertoire d'un luthiste, disons. Et ça sonne particulièrement bien, en plus, il faut dire.
Ah, donc, formidable. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir le constater tout de suite, parce que je suis sûr que Serge est très intrigué de ce que ça peut donner du Satie.
Ça va très bien. Eric Satie et le luth, mais
la
ça
guitare,
ne peut
ça
que
marche
marcher,
très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au luth. Et on va écouter la fameuse première gymnopédie dans la version enregistrée par Thomas Dunford. Alors, en fait, ce n'est pas du luth, là, c'est du théorbe, mais on est très proche tout de même en termes de sonorité. Thank you. La première gymnopédie interprétée par Thomas Dunford, qui donne donc un récital de luth le 4 juillet à 20h à la chapelle Notre-Dame de Piéta à Barbazan-de-Batte. Et le 5 juillet, il y a relâche de nouveau. Le 6, un événement qui n'est pas un concert, mais toutefois très important dans votre programmation, les rencontres de l'offrande Arts et Handicap à partir de 14h30. Et ça, c'est encore au Haras National de Tarbes. Très rapidement, il s'agit de quoi, David, là ?
Alors ça, c'est la première fois qu'on essaye ce format. C'est effectivement une journée qui est consacrée, comme son nom l'indique, à notre cause du handicap, mais plus particulièrement à son lien avec l'art, en particulier grâce à deux artistes qui seront présentes en l'occurrence, Anja Linder qui est harpiste et Jeanne Borgel qui est danseuse contemporaine. Ces deux personnes ont, pour des raisons différentes, souffrent de handicap. Elles ont réussi à dépasser les difficultés, les limites que pouvait leur imposer leur corps pour la musique, mais aussi peut-être grâce à la musique. C'est ce qu'elles expliqueront puisqu'elles seront interrogées pendant cet après-midi. Et elles vont également jouer et danser. Et nous aurons également la présence de notre parrain de cette année, qui est Arnold Munich, qui est un très éminent généticien français qui a créé le département de génétique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc il connaît évidemment très bien aussi ces sujets-là, à la fois comme scientifique, mais aussi comme homme, puisqu'il est confronté à la fois aux patients et à leur famille. Et donc je pense que ça sera intéressant d'avoir tous ces points de vue qui se confrontent. Et le soir, il y aura un spectacle qui s'appellera Le silence de nuit, qui est fait par Mylène Souilleux, avec sa fille Yuna, qui est en situation de handicap, et qui nous expliquera également, après le spectacle, comment ce spectacle a été conçu, parce que c'est un spectacle qui est une sorte d'émanation de ce que Yuna exprime, mais pas d'une manière verbale, si j'ose dire, et tout ça est fait avec une méthode qui s'appelle la psychophanie, que sa maman va nous expliquer, en tout cas nous éclaircir notre lanterne, parce que moi-même je la connais assez peu, cette méthode-là, mais elle, manifestement, elle permet de communiquer d'une manière différente avec des enfants qui sont privés de parole aussi.
Voilà, et donc ça, c'est le 6 juillet, à partir de 14h30 au Haras National de Tarbes.
Oui.
Le 7 juillet à 20h, alors un lieu qui vous tient à cœur aussi, l'abbaye, à l'abbaye de l'Escaladieu sur la commune de Bonne-Mazon. Un autre événement particulier, le concert, et là c'est vous qui êtes vraiment sur le pont, le concert David Frey et les jeunes talents classiques. Ça, c'est la partie découverte du festival et soutien aux talents émergents de la scène classique.
Oui, en fait, j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Katharina Hamon, qui a une fondation assez formidable en Suisse pour aider justement les jeunes musiciens en début de carrière. Et on a eu cette idée, elle est venue au festival l'année dernière, elle a été très séduite par le festival, et on a eu cette idée de proposer un concert durant lequel je me produirai aux côtés de trois musiciens, donc un pianiste, un clarinettiste et une violoniste et compositrice d'ailleurs, pour mélanger un peu les générations et faire découvrir effectivement des talents émergents qui sont déjà, pour deux d'entre eux,
bien lancé dans la carrière.
Voilà, en phase de confirmation, puisque deux d'entre eux ont déjà été nommés aux Victoires de la musique, catégorie révélation. Donc voilà, il y aura des œuvres de Schubert et Schumann, si mon souvenir est bon, et également des œuvres d'Élise Bertrand, d'ailleurs, qui est une compositrice française déjà bien reconnue.
Et qui est violoniste, qui est donc violoniste,
Élise Bertrand. Et violoniste, absolument.
Ouais. Effectivement, il y aura la Fantaisie en Fa mineur pour piano à quatre mains de Franz Schubert et les trois romances pour clarinette et piano de Robert Schumann. C'est un très joli programme romantique. L'offrande musicale est aussi une manifestation pluridisciplinaire. Et le 8 juillet à 20h, à la salle Robert Hossein de Lourdes, il y a un gala de danse classique que vous avez intitulé « Les beautés de la danse » et lors duquel vont se produire rien moins que des étoiles et des solistes des plus grandes compagnies d'Europe, notamment de l'Opéra de Paris et du Ballet de Hambourg.
Oui, absolument. Ça, la danse, ça fait partie des découvertes relativement récentes pour moi. C'est un art auquel je n'étais pas forcément intéressé pendant mon parcours. Et depuis que j'ai rencontré John Neumeyer, qui d'ailleurs, je crois, est à Toulouse en ce moment, puisque je crois qu'il donne le chant de la terre.
Oui,
donc ça, je recommande à tout le monde d'y aller. Donc John Neumeyer, qui est un artiste incontournable et qui est venu à l'offrande musicale il y a 2 ans. Voilà, et donc j'ai découvert le ballet et la danse grâce à lui. Et c'est vrai que c'est une forme d'art qui aujourd'hui m'intéresse énormément, m'inspire aussi. Et là où je pensais un peu bêtement que c'était sur la danse qui avait besoin de musique pour exister, je me suis rendu compte finalement, en regardant toutes les œuvres que je joue, que finalement,
vous qui êtes un passionné de Bach,
besoin de la danse.
Oui, bien sûr.
Voilà, exactement. Très souvent, et même chez Schubert, chez beaucoup de compositeurs, finalement, la danse est toujours présente en réalité. Et là, on a deux danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, qui sont Mathieu Gagnon et Ludmila Paliero, qui sont des artistes vraiment magnifiques. Mathieu Gagnon, je dois dire, j'étais très très heureux qu'il puisse venir, parce que c'est vraiment un danseur que j'admire énormément. Il y aura également Audric Bézard, qui est premier danseur de Paris. Trois merveilleux danseurs aussi, qui sont des équivalents des danseurs étoiles. Mais comme vous le savez peut-être, la dénomination de danseur étoile est réservée à l'Opéra de Paris. Enfin, c'est une caractéristique de l'Opéra de Paris. Mais ils sont, disons, équivalents. C'est pas l'Opéra de Hambourg, Anna Lauder et Edwin Revazov. Et Alina Koyoukaro, qui était principale au Royal Ballet à Londres également. Et puis, je peux vous annoncer qu'il y aura également des danseurs exceptionnels du ballet de Bavière, donc de Munich, qui vont se rajouter, voilà. Donc ouais, ça, c'est...
J'espère que...
Vous aurez une aussi, je pense, un panorama assez varié de plusieurs formes de danse et de chorégraphie. Je pense que ça va être intéressant pour les amoureux de la danse, mais aussi pour ceux qui veulent la découvrir.
Oui, et on n'a pas si souvent que ça dans notre région, des grandes compagnies de danse classique comme ça qui se produisent. Vrai. Le 9 juillet, c'est vous qui allez vous produire à 20h à l'espace Valgora de Loudainville, en compagnie d'un de vos complices favoris, le violoniste suédois Daniel Lozakovic, avec qui vous jouez en duo depuis déjà quelques années. Et bien sûr, vous allez nous jouer des pièces de votre vieil ami Jean-Sébastien Bach.
Oui, ça c'est un concert auquel je tiens beaucoup également, parce que Daniel Lozakovic, il a beau être beaucoup plus jeune que moi, mais il a déjà une longue carrière en réalité. Il fait partie de ces gens qui aiment les galvauder, mais vraiment des prodiges. Je recommande à quiconque d'aller écouter ses 4 saisons de Vivaldi quand il avait 12 ans. Moi, j'ai rarement entendu jouer comme ça. Donc, et c'est devenu non seulement un ami, mais un partenaire très privilégié, et c'est un musicien absolument exceptionnel. C'est vraiment, je pense, un des plus grands violonistes actuels. Il a seulement 23 ans, mais c'est absolument époustouflant. Et il n'a pas été choisi par hasard pour la visite d'État du roi d'Angleterre il y a quelques mois pour jouer la chacotte.
Oui, c'est vrai, c'était lui.
Devant le couple royal et le couple présidentiel, le château de Versailles. Et indépendamment de cet événement, il fait une carrière absolument fantastique partout dans le monde. Et moi, j'ai la chance de l'avoir comme partenaire, et en particulier pour ce concert, donc avec 3 sonates de Bach. Il va jouer également seul, je pense, la chaconne, et moi je jouerai seul également une partie de cette Bach.
Oui, alors nous, Daniel Lozakovic, Serge, on l'a vu à Toulouse, aux grands interprètes. Oui. Je ne vais pas dire qu'il était bébé, j'exagère, mais il avait quoi, 13-14 ans
Exactement, mais il est venu plusieurs fois à Toulouse.
Oui, oui, et ben on l'a vu changer physiquement petit à petit.
Exactement.
Et devenir maintenant un grand jeune homme.
Hein, oui. Il fait des choses magnifiques, aussi bien avec orchestre qu'avec piano.
En duo, avec David Frey, par exemple. Voilà.
Oui. Donc, c'est
un grand violoniste. Il a une qualité qui est rare, outre ses qualités purement instrumentales, c'est qu'il a une grâce particulière.
Oui. Ah, mais il est bon à avoir joué, je suis d'accord.
Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Et en fait, il a une lumière dans le son également qui, moi, je trouve vraiment exceptionnelle.
Ça, c'est à noter, mais tout est à noter. Mais effectivement, David Frey l'a dit lui-même. Lui, ça, c'est un rendez-vous qui compte beaucoup pour lui. Donc, le 9 juillet à l'espace Valgora de Loudainville. Relâche le 10, le 11 juillet, concert à 20h au Parvis Aibos. Donc, c'est la scène nationale de Tarbes où le public du festival a rendez-vous avec l'orchestre de chambre de Paris, s'il vous plaît, et le corniste allemand Felix Kieser. Et puis vous-même, vous serez encore de la partie, David. Soirée très importante elle aussi, parce que Felix Kieser, eh bien c'est lui l'artiste en résidence à l'Offrande Musicale, et ce jusqu'en 2026, et parce qu'il illustre parfaitement la raison d'être et la vocation de ce festival. Expliquez-nous pourquoi, David.
Oui, alors Felix Kieser, il s'était produit il y a 2 ans aux côtés de Riccardo Muti à l'Offrande Musicale, lors de ce concert sur l'Esplanade à Lourdes. Il avait joué un concerto de Mozart. Et en fait, Felix Kieser, il est né sans bras. Donc rien ne pouvait laisser imaginer qu'il puisse devenir un corniste, et un corniste de ce niveau. Et bon, là vous voyez aussi que l'esprit humain et la volonté et le talent n'ont pas de limites, n'ont pas de barrières finalement. Il est devenu un corniste extrêmement demandé un peu partout. Donc il joue avec ses pieds en réalité, donc c'est une chose assez peu commune, je dois dire. Et si vous essayez vous-même de différencier un orteil d'un autre, vous verrez que vous aurez beaucoup de mal.
Ne me parlez pas de ça, vous me donnez le vertige.
c'est ça. Donc lui, il joue comme ça et c'est stupéfiant. Mais c'est vrai que c'est aussi, au-delà de son talent, c'est vrai que c'est aussi un message qu'on veut porter. Parce que porter la cause du handicap, ça peut paraître parfois un peu lourd ou un peu... parfois même triste. Et nous, on essaye quand même aussi de montrer de combats gagnés aussi. Pas seulement de combats perdus, parfois, hélas, mais de combats gagnés. Et ça, c'est un exemple magnifique d'un combat gagné. Et voilà. Et en plus de la présence de Félix, il y a l'Orchestre de Chambre de Paris qui est vraiment un magnifique ensemble que j'aurai le plaisir de diriger du piano également. Et voilà, et on participe pour la première fois à la programmation du Parvis de la scène nationale.
Oui, alors il y aura le 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, il y aura le 3e concerto pour piano de Beethoven, j'imagine qu'il va être au piano. Et Félix Kleiser, lui, il va nous jouer, il y aura du Vivaldi, il y aura du Handel, il y aura du Bach, bien sûr. Et dans Vivaldi, il y a le fameux Gloria. Et je vous propose qu'on l'écoute, Félix Kleiser, dans un enregistrement de ce fameux Gloria de Vivaldi dans un arrangement pour corps. Le Gloria de Vivaldi dans un arrangement pour corps, une version enregistrée par Félix Kleiser, qu'il va jouer le 11 juillet à Ibos avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et puis donc, il y aura David Frey qui jouera le 3e concerto pour piano de Beethoven. Le 12 juillet, concert à 20h au Théâtre des Nouveautés à Tarbes, où l'on retrouve votre camarade Renaud Capuçon, entouré d'amis musiciens. Et qui sont les amis en question?
Alors, les amis en question, c'est l'altiste Gérard Cosset, qui évidemment n'est pas n'importe qui.
Et qui est toulousain.
Et qui est toulousain en plus, alors d'autant plus. Et ensuite le pianiste Guillaume Bellhomme et le violoncelliste Maxime Kenson.
Voilà, donc
programme Mozart et Forêt.
Alors c'est l'année Forêt, évidemment, on commémore les 100 ans de la mort de Gabriel Fauré. Il y aura son quatuor pour piano et cordes numéro 2. Et puis donc le quatuor pour trio à cordes et piano numéro 2 en mi bémol majeur K493 de Mozart. Alors le concert de clôture le 13 juillet à 20h va se passer dans le cadre splendide du lac de Payolle à Campan. C'est au pied du pic du Midi avec le concert d'Astrée, l'ensemble fondé et dirigé par Emmanuel Haïm, qui va donner la célèbre Music for the Royal Fireworks de Handel. Et ça, c'est un projet un peu fou, qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Expliquez-nous un peu ce que vous nous avez préparé, là.
Oui, alors donc la musique pour les feux d'artifice royaux était pensée par Handel pour être jouée sur l'eau, donc sur la Tamise, et pour accompagner, évidemment, des feux d'artifice à l'époque. Et j'ai eu cette idée, effectivement, un petit peu folle de vouloir recréer cette œuvre dans les conditions pour lesquelles elle avait été pensée, en fait. Donc il y aura effectivement une scène flottante sur le lac de Payolle, qui est un lac de montagne, hein, on sera à plus de 1000 mètres d'altitude, et donc des feux d'artifice qui accompagneront l'œuvre de Handel. Alors je précise, ce sont des feux d'artifice qui sont faits par un artificier qui s'appelle Léopold de Courcelles, qui travaille souvent au château de Versailles, et qui va les faire comme ils étaient pensés à l'époque. Les feux d'artifice étaient essentiellement ou argentés ou dorés, en fait. Donc on aura essentiellement des feux d'artifice de cette tonalité-là, et avec des feux de Bengale, des choses vraiment qui existaient à l'époque et qui vont être une sorte de voyage dans le temps, finalement. On va recréer ce qu'étaient ces musiques d'apparat et les conditions un peu extraordinaires qui les accompagnent.
Et voilà, vous ne reculez devant aucun sacrifice, vous déplacez les feux d'artifice du château de Versailles dans les Pyrénées. Ah, ça
Voilà,
va être vraiment, c'est le cas de le dire, c'est un final en feu d'artifice pour cette édition 2024 de l'offrande musicale. On va écouter un petit extrait de Music for the Royal Fireworks de Handel. C'est pas une version du concert d'Astrée, c'est le Berliner Philharmoniker, mais c'est Emmanuel Haim qui dirige. Extrait de Music for the Royal Fireworks de Handel dans une version du Berliner Philharmoniker dirigée par Emmanuel Haim, mais c'est bien à la tête de son concert d'Astrée que la chef française va diriger cette œuvre lors du concert de clôture du festival 2024 au lac de Payolle à Campan. Merci beaucoup David Fray de nous avoir présenté la programmation de la 4e édition de l'offrande musicale du 29 juin au 13 juillet. On va vous souhaiter une bonne fin de journée dans votre chère Bigorre natale. Très rapidement, Serge, nous avons un concert annoncé cette semaine, celui que donne Martha Argerich à la Hallograin, encore une grande pianiste, samedi 13 avril à 20h. Elle le donne à quatre mains aux côtés du jeune pianiste sud-coréen Dong Hyek Lim.
Oui, alors juste, bon, on ne présente plus Martha Argerich.
Non,
évidemment.
C'est pas la peine, je pense.
C'est plus nécessaire. Par contre, le pianiste sud-coréen Dong Hyek Lim, il est né en 1984 à Séoul. Bon, ça a été quand même le plus jeune étudiant de l'histoire du conservatoire Tchaïkovski de Moscou et le plus jeune vainqueur du premier Grand Prix de l'histoire, là aussi, du concours international Marguerite Long, Jacques Thibault à Paris. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a déjà un passé malgré son jeune âge. Alors, les deux musiciens vont jouer trois œuvres. Tout d'abord, la fantaisie en fa mineur opus 103 de Franz Schubert. Alors ça, c'est une œuvre à quatre mains, pour piano à quatre mains. Et puis ensuite, deux œuvres de Rachmaninoff, la suite numéro 2, opus 17, qui est à deux pianos cette fois. Et puis, les fameuses danses symphoniques que Rachmaninoff avait d'abord composées pour orchestre symphonique, qu'il avait d'ailleurs dédié à Eugène Ormandy à l'Orchestre Philadelphie, mais dans sa version pour piano, évidemment, avec les deux musiciens réunis. Voilà pour ce concert des grands interprètes.
Voilà, Martha Argerich, qui a bientôt 83 ans, ne mais désarme toujours pas, et qu'on aura plaisir, bien sûr, à revoir à la Hallograin. Concert samedi 13 avril avec Dong Hyek Lim à la Hallograin, une soirée programmée par le cycle des grands interprètes pour laquelle je vous invite à réserver et acheter vos places sur le site www.grandsinterprètes.com. Quant à la 4e édition de l'offrande musicale, le festival fondé et dirigé par David Fray, elle se tient, je le rappelle encore, du 29 juin au 13 juillet avec cette programmation de très haut niveau et ses musiciens de très grand standing que nous vous avons présenté. Les concerts sont situés à Tarbes, à Lourdes, mais aussi dans des hauts lieux du patrimoine architectural et naturel des Hautes-Pyrénées. Il y en a pour tous les goûts et je rappelle que ce festival est un événement humaniste et solidaire qui ouvre ses portes et facilite ses accès aux personnes en situation de handicap, l'accès physique mais aussi financier avec des tarifs préférentiels. C'est une magnifique initiative. Pour vous renseigner et acheter vos places, il faut vous connecter au site www.l'offrandemusicale.fr. Je remercie encore une fois Serge Chosy et David Fray d'avoir été les invités de cette émission. Je remercie également Christophe Aubry, son réalisateur. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à vous tous qui nous écoutez fidèlement chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale à tous. À bientôt.